Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, bienvenue à Société. Merci d'être à l'écoute, comme à chaque samedi midi, enfin, ou la plupart des samedis midi, j'en suis sûr. Non, mais sans blague, c'est toujours un plaisir de vous savoir là. Et puis, portez-vous bien surtout et continuez de nous écouter dans un instant. À l'émission, nous discutons avec les Bérard et Fortin, Frédéric de leur prénom commun, de l'actualité politique. Et puis, un peu plus tard dans l'émission, nous allons faire un tour à Paris, rencontrer à distance comme ça Nicolas Vidal, qui nous fait un tour d'horizon en politique française, notamment cette volonté du président Macron d'abolir la très célèbre ENA, l'École d'administration publique, et l'École nationale, oui, d'administration publique, mais aussi, bien sûr, la situation COVID là-bas, pour nous donner un petit coup d'œil sur ce qui se passe en France et en Europe à cet égard. Un peu avant, nous parlerons à Farouk Karim, notre correspondant à Gatineau, de politique canadienne, notamment les congrès du NPD et du Parti libéral du Canada qui avaient lieu la fin de semaine dernière. Et puis, ben voilà, tout de suite en début d'émission, commençons avec Frédéric Bérard, qui est probablement quelque part dans dans le fond des bois. Bonjour Frédéric Bérard, chroniqueur métro, avocat.
Bonjour Nick Payne, comment allez-vous?
Eh bien, merci. Et votre, vous aussi, j'en suis sûr, et votre dernier ouvrage s'appelle, rappelez-le-moi, vous venez de publier « La bêtise insiste toujours ». Est-ce que c'est
en
ça?
En fait, oui, ben, ça sera publié le 18 mai, très précisément.
Ah, c'est un recueil de chroniques?
Ouais, puis des trucs inédits, puis voilà, là.
Ah, ben, quelques primeurs, donc des bonbons avec des grands succès et des inédits.
Ah, vraiment. En tout cas, c'est très discutable.
Et c'est publié chez qui exactement?
C'est chez Somme Toute, comme d'habitude.
Fidèlement chez Somme Toute. Et ouais, puis, voilà. Celui qui n'a pas encore publié, à ce que je sache, de livre, Frédéric Lapointe, ancien candidat dans Maurice Richard et fondateur de la Ligue d'Action Civique. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous n'avez pas publié, vous?
Ça viendra.
Ah bon, parfait. Ah ben, on attend ça avec impatience. On va aller un peu ailleurs pour commencer cette discussion aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, messieurs et chers auditeurs, dans l'ancien monde, nous allions parfois hors Québec, même parfois hors Canada, presque hors du continent. Nous allions nous promener dans le sud, notamment à Cuba. Les Québécois ont une relation particulière avec cette île et ce pays socialiste, le pays de la révolution de Fidel Castro. Alors, c'est une chance qu'on a. Hein? On s'en rend pas toujours compte, là, parce que ça fait très ordinaire, ça, le tout inclus à Varadero avec mon oncle Kevin et ma tante qui vous voudrez. Mais il reste que derrière les sombreros, pas les sombreros dans le cas de Cuba, mais derrière la cristal et autres particularités cubaines, il y a quand même un pays fascinant qui est sous embargo par ailleurs des États-Unis d'Amérique, ce qui n'est pas sans lui coûter quelques 20 milliards de dollars récemment, là, sous l'ère Trump. On sait que le président Trump a durci cet embargo et c'est une responsable cubaine là, qui, à la fin de la présidence Trump, expliquait que ça avait coûté donc 20 milliards à Cuba, ce durcissement des mesures. L'économie allait déjà relativement mal depuis quelques années là-bas. Ça s'est empiré avec la COVID, évidemment, puisque l'île a été fermée, ce qui a permis à Cuba de connaître une très belle performance là, du point de vue pandémique, mais évidemment de grandes difficultés économiques. Et par ailleurs, à Cuba, on est à compléter le développement d'un vaccin contre un ou deux vaccins même contre la COVID, ce qui est assez inusité pour un pays de cette taille. Et qu'on regarde souvent de haut. Alors, pourquoi je vous parle de Cuba? Bien, c'est parce que c'est la toute fin là, de l'ère Castro. Raoul, le frère de Fidel Castro, quitte son poste de secrétaire général du Parti communiste ce lundi, à presque 90 ans. Je ne sais pas, messieurs, si vous connaissez le nom de celui qui va lui succéder et qui est déjà président de Cuba depuis 2 ans. Il s'appelle Diaz, de son nom de famille, Diaz Canel. Frédéric Lapointe, est-ce que Cuba va changer? On n'arrête pas d'annoncer la nouvelle ère, le retour de Cuba vers des valeurs qui nous ressemblent plus, nous ici, grands capitalistes. Quel est votre... Allons-y très largement. Comment vous voyez ça, vous, Cuba?
vous savez, le régime cubain peut sembler anachronique en 2021, mais des régimes qui se maintiennent par un mélange là, de forces armées et d'idéologies bien affirmées, il y en a encore partout dans le monde. Il y a le Venezuela, bien entendu, il y a la Chine, il y a la Birmanie, il y a d'autres pays qui ont connu des troubles plus importants, la Syrie en est, l'Algérie en est un autre, avec l'omniprésence de son armée, ou l'Égypte. Donc, ce n'est pas si exceptionnel que d'avoir un pays avec un régime politique, économique un peu particulier, mais qui se maintient parce qu'il fonctionne peu ou prou comme une dictature. Ce qu'il faudrait peut-être pour que ce régime change, paradoxalement, c'est un changement d'attitude de l'administration américaine. On sait que l'administration américaine veut sortir de l'Afghanistan avec sa guerre la plus longue, paraît-il, 20 années passées en Afghanistan. Mais l'embargo ou la guerre économique que les États-Unis mènent à Cuba, ça fait deux générations. Et on peut se demander à quoi cette guerre économique sert aujourd'hui. Cuba n'est plus une menace pour les intérêts stratégiques ou pour l'intégrité territoriale ou la sécurité des Américains. Alors, ça semble de plus en plus être un caprice de politique intérieure, mais qui ne semble pas avoir favorisé quelques changements que ce soit sur l'île de nos vacances.
Frédéric Bérard, le régime autoritaire, la dictature, le communisme, donc l'autoritarisme, oui. Quand on va à Cuba, et qu'on sort un petit peu des sentiers battus, ce qu'on découvre ne colle pas tout à fait avec cette image très austère ou négative qu'on a généralement de ce pays dans la presse occidentale. Et on sait qu'au Québec, particulièrement, au tout début de la révolution castriste, on avait une sorte de préjugé favorable pour Fidel Castro et pour Cuba. On voyait cette espèce de révolution romantique presque. Bon, c'est par la suite qu'on a un peu déchanté en apprenant toutes sortes de choses si typiques des régimes autoritaires. Mais il reste que c'est une sorte de... Cuba incarne tout de même une espèce de dictature bienveillante. Est-ce que ça existe, ça? Est-ce que j'exagère? Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, 60 ans plus tard?
Ben, le despote éclairé de Voltaire, ici, peut-être. À quel point il est éclairé tout le temps, ça, c'est une autre histoire. Mais moi, je dois vous avouer, je suis très content qu'on parle de Cuba aujourd'hui. Là, je suis un amoureux de Cuba depuis longtemps. J'ai eu la chance, lorsque je travaillais à Jeunesse Canada Monde, de le visiter dans presque tous ses raccoins, là, dans les terres et tout. C'est un pays qui est absolument phénoménal, qui est complexe d'un point de vue politique, d'un point de vue sociologique.
Mais vous êtes bien placé pour remarquer avec moi qu'il n'y a pas que du négatif, c'est-à-dire qu'on jouit d'une certaine façon de cette absence de pression consumériste et commerciale quand on va là-bas dans le pays profond, non?
Mais c'est, vous avez absolument raison. Puis vous faites bien aussi de dire que la presse occidentale, notamment celle contrôlée par les Américains, ont fait une job de bras au régime castriste pendant plusieurs années. Bon, ce qui ne veut pas dire que le régime en soi est dépourvu de failles, que Castro n'est pas en quelque sorte une espèce de dictateur à peut-être bon marché à certains moments, mais reste que quand vous regardez les progrès qui ont été faits, et là je parle comme Sartre dans les années 50, là, mais quand tu parlais de l'Union soviétique, mais quand vous regardez les progrès que Cuba a fait depuis la révolution castriste, je veux dire, tout juste avant, c'était avec Batista, c'était absolument épouvantable. C'était l'espèce de succursale qui était des Américains.
Alors, les casinos, la mafia et les restes.
Et on a viré ça bout pour bout pour arriver à un régime qui fournit les meilleurs soins de santé dans ce coin-là du monde et aussi d'un point de vue éducationnel, je veux dire, c'est des performances remarquables. Évidemment, si on compare les pommes avec les pommes, vous pouvez pas arriver à la conclusion que ceci n'a pas fonctionné là, sur l'île de Cuba, où ça a été un vide. Maintenant, sur la question des libertés civiles, moi, c'est certain que ça m'achale, évidemment, ça va de soi, mais pour avoir passé quand même un certain temps là-bas, j'avais compris certains trucs. Oui, la liberté d'expression, et elle est contrôlée, peut-être pas autant, comme disait Frédéric, que d'autres régimes, cela dit, mais pour moi, la liberté d'expression qui est contrôlée, c'est déjà trop. Mais reste que, il y a quand même, je dirais que c'est un peu le pendant de ce que je viens de dire. Si tu vas avoir cette espèce de succès-là, malheureusement, et peut-être très, très paradoxalement et ironiquement, t'as pas trop le choix. Pourquoi? Parce qu'avec tous les Américains qui aimeraient bien revenir hein, sur l'île, on le sait, là, parce qu'il y a eu des évidemment des expropriations importantes tout de suite après la Révolution. Ben, évidemment que ces Américains-là, avec une liberté de presse absolue, une liberté d'expression absolue, réussiraient à déstabiliser le régime dans le temps de le dire. Donc ça, c'est le volet qui m'achale, évidemment. Est-ce que c'est un compromis qui est acceptable? Je sais pas, je laisse
ça. Ben, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est seulement achalant? Parce que c'est quand même le genre de choses qu'on dénonce vivement et pour lequel on mène des guerres, parfois, de par le monde. Il faut tout prendre, hein, avec Cuba. On est obligé de prendre les deux côtés. Est-ce que, au final, vous souhaitez, vous aussi, que Cuba se libéralise? C'est ce qu'on ne cesse d'annoncer depuis l'arrivée de Raúl Castro à la présidence. Et puis, maintenant, en parlant de l'arrivée de son successeur, là, est-ce que souhaitez-vous ça?
Bien, évidemment, si vous demandez, Nick, est-ce que toi, Bérard, t'aimerais un monde idéal? Je répondrais oui. T'sais, si on peut avoir un pays dans des conditions comme celle-là, qui réussit à avoir le meilleur système de santé, le meilleur système d'éducation, tout ça dans un respect total et absolu des libertés civiles, mais ça, je vais appeler ça le paradis sur Terre, puis je déménage demain matin. Mais le problème, c'est est-ce qu'on est capable de garantir ça tout en faisant face aux gérants américains? Là, vous parliez du blocus tout à l'heure, vous aviez raison de le faire. Je veux dire, c'est quasiment un miracle que Cuba ait réussi à survivre dans des conditions politique comme celle-là. Rappelez-vous, quand l'Union soviétique s'est dissoute, on pensait que c'était la fin de Cuba, pour des raisons assez évidentes. Je veux dire, sans le méga allié de l'URSS, est-ce qu'il serait capable de passer à travers toutes les espèces de secousses cosmiques?
Ça aurait été très difficile aussi dans les années 90, Cuba.
Oui, mais ils ont quand même réussi, façon de parler, puis je sais que c'est pas parfait et tout ça, mais je me dis, moi, j'ai du respect, je peux pas faire autrement, puis je sais qu'il y a plusieurs Cubains qui sont contre le régime aussi, et évidemment, ils ont tous toute mon empathie, là, ça va de soi, il y a pas de discussion à avoir là-dessus, mais j'essaie de faire un portrait global. Si, par exemple, vous allez à côté, pas très loin, en Haïti ou en République dominicaine, si vous comparez les pommes avec les pommes, est-ce que Cuba est dans la queue de peloton, ou plutôt l'inverse? Moi, je pense que c'est l'inverse.
En effet,
oui,
Frédéric Lapointe, pendant que Frédéric Bérard se déplace parce qu'il y a un gros tronc d'arbre qui fait qu'on vous perd parfois, Frédéric Bérard. Oui, Frédéric Lapointe, est-ce qu'il est vrai que lorsqu'on compare Cuba avec des îles comparables dans les environs, on est obligé de noter un certain succès tout de même?
Il n'y a pas de substitut à l'établissement d'un ordre. Il n'y a pas de substitut à la capacité de mobiliser les individus pour réaliser des projets d'importance. Le cas d'Haïti est malheureusement l'exemple inverse, où il y a une certaine liberté de parole qui est permise dans la violence, malheureusement, avec les risques que courent les journalistes et les militants, bien entendu. Mais voici une démocratie qui fonctionne peu ou prou, mais qui, en l'absence d'institutions fortes, n'est pas capable de mater la criminalité, n'est pas capable d'établir, à la limite, de cri ou de force, une forme de projet national qui permettrait d'accumuler des succès, accumuler du capital, des infrastructures, des progrès au plan de l'éducation, au plan de la santé. Et donc, c'est pas banal que de constater que lorsqu'on a des populations de plusieurs millions d'habitants, ben, il faut un certain ordre qui s'installe, il faut une certaine capacité de mobilisation. Et ça, ben, c'est pas unique à Cuba. Les régimes communistes ont montré qu'ils pouvaient être très efficaces à construire des institutions, à relever des défis scientifiques, l'espace dans le cas des Russes, la pandémie dans le cas des Chinois, puis on pourra le dire, résister à l'embargo dans le cas de Cuba. Ceci étant dit, malheureusement, lorsque l'armée en particulier et quelques individus se saisissent de ce pouvoir immense, ils sont en général complètement incapables de le redonner à la société civile. On voit la dérive en Chine à l'œuvre avec son leader Abiy, et on voit cette dérive-là à Cuba avec le duo qui a gouverné Cuba pendant 60 ans. Et je ne verrais pas pourquoi l'armée actuellement au pouvoir, qui est le principal bénéficiaire du système, laisserait la société civile cubaine se développer davantage. Je suis plutôt pessimiste à cet égard.
Alors justement, le prochain leader du parti, qui est déjà président, est un civil. Alors c'est la première fois que ça arrive depuis 1959. Est-ce que ça veut dire qu'on tend vers... Est-ce que, contrairement à ce que vous dites, l'armée finira par redonner le pouvoir au peuple, si on veut? C'est une vaste question. Mais Frédéric Lapointe, est-ce à dire que... vu que c'est une dictature ou un régime autoritaire, ce sera toujours mauvais. Est-ce que ce simple élément-là, qui n'est pas simple, mais enfin ce seul élément-là justifierait qu'on souhaite que Cuba devienne une démocratie ordinaire et que ça se compare à la... Vous avez pris Haïti, vous avez fait fort dans la comparaison. On aurait pu dire la République dominicaine dans ce coin-là aussi. Reste que il y a... Quand on sillonne ce pays, Cuba, on y constate, somme toute, moins d'inégalités que dans un pays comme la République dominicaine. Certains diront, un peu comme Manon Massé autrefois, que c'est parce qu'on a réussi à répartir la misère également, peut-être, à Cuba davantage qu'en République dominicaine, mais c'est vrai que c'est pas si miséreux que ça non plus, non?
C'est un spectre. Dans nos propres sociétés, on a des degrés divers d'encadrement des libertés civiles. On a des degrés divers. En Occident, c'est assez convergent, là. Mais il y a des degrés divers de tolérance à la liberté d'expression, au droit de manifester. Enfin, tout ça est un spectre et soumis à la discussion. Maintenant, ce qui nous confronte, c'est qu'on a des régimes ouvertement autoritaires. Cuba en est un, la Chine en est un autre. Et ils prétendent encore avoir un meilleur système, et la dimension communiste ou pas est assez devient assez ténue. Hein, c'est davantage l'autoritarisme là qui est mis de l'avant, la capacité de mobiliser les gens, de ne pas les laisser se perdre dans la critique, dans la délibération démocratique. Donc il y a un conflit de modèles, mais même dans nos sociétés, ce spectre il existe, et la discussion sur plus d'anarchie ou plus d'ordre, elle a cours.
Même ici, en effet. D'ailleurs, passons d'une dictature à une autre, puisqu'au Québec, certains dénoncent la dictature sanitaire.
Voilà.
Frédéric Bérard, François Legault, s'est encore distingué par sa capacité d'admettre une erreur et de rétro-pédaler avec une certaine grâce, tout de même, cette semaine, en revenant là, sur les consignes à propos du masque à l'extérieur, en disant, écoutez, non, si vous pratiquez, par exemple, un sport où vous êtes certain de ne pas vous approcher à moins de 2 mètres les uns des autres, ne portez pas de masque. Idem si vous marchez avec quelqu'un sur la rue. Même chose si vous êtes un couple qui ne demeure pas à la même adresse. C'était des consignes qu'on avait précédemment données un peu tout croche, en oubliant d'en parler dans une conférence, dans un point de presse précédent. Et quelques jours plus tard, un sondage nous indique à nouveau un très fort appui des Québécois à François Legault et généralement à sa gestion de la crise. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Je pense qu'effectivement, Legault est excellent. Il est de moins en moins, par contre. Hein. Il s'en vient de plus en plus orgueilleux par rapport à ses prises de décision, mais il reste quand même très, très malléable versus un Philippe Couillard, par exemple. Et je pense que c'est peut-être malheureusement peut-être la raison pour laquelle les Québécois l'apprécient autant. Le fait de ne pas être arrogant et être capable d'admettre une erreur. Maintenant, pour le reste, sur le fond, encore une fois, le docteur Arruda a échappé le ballon de manière assez magistrale quand on lui a posé la question, mais sur quelle base scientifique fondez-vous cette nouvelle directive des masques à l'extérieur? Il dit, il n'y en a pas.
Okay. C'était candide en même temps. C'était reconnaître que c'est un choix politique.
Je suis l'année d'un directeur de la santé publique qui est candide en pleine pandémie. J'aimerais ça d'en avoir un compétent à la place. Puis là, j'ai comme l'impression qu'un va pas avec l'autre. L'histoire va finir par juger cet épisode-là avec, je pense, comme conclusion ceci. On a eu un des pires incompétents de l'histoire à la tête d'une gestion de crise qui devait être absolument névralgique. Je trouve ça incroyable que ce gars-là ait autant de passe-droit Il y en a combien qui seraient morts lapidés sur la place publique du fait de son incompétence? Mais lui, c'est comme si...
Oui, en fait, au Québec, peut-être pas tant que ça. On n'est pas si violent que ça,
Frédéric Bérand. Il y a eu son histoire de tartelette au début, puis on dirait que voilà, une histoire d'amour qui n'en finit plus, qu'on lui pardonne absolument n'importe quelle ânerie. Je veux dire, il n'y a pas de ça de 2 semaines. Quand les mesures de relâchement, 3 semaines, les mesures de relâchement avaient été déclarées, il dit ça, là, inquiétez-vous pas, là, puis... Non, puis là, même si on tombe à 2000 cas par jour, là, il n'y a pas de problème, là, on est en business, tout est beau. 48 heures après, il a changé d'idée encore une fois, en disant non, 1000 cas par jour, c'est ben trop. Mais je veux dire, c'est plus, tu sais, les premières semaines, je peux comprendre, c'est une pandémie qui frappe de plein fouet, tout le monde marche sur les talons, on sait pas trop comment la gérer, mais là, ça fait 13-14 mois. Je veux dire, ça fait 13-14 mois que c'est erreur par-dessus erreur, mauvaise communication. Il déchire en quelque sorte le tissu social parce que ça, c'est la nourriture à complotisme. Toutes ces bêtises-là qui voient bien que le gouvernement leur raconte des pipes. Alors, bref, je sais pas. Moi,
en même temps, Frédéric Lapointe, quand on se compare, on se console. Et assez rapidement, merci, ces temps-ci, en tout cas, notre voisin ontarien est très, très, très mal pris. Somme toute, nous faisons désormais au Québec bonne figure, même au point de vue de la vaccination. Quand on regarde ailleurs, plus loin de nous, c'est pas rose non plus. Il y a beaucoup de contestations et de doutes quant à la compétence des autorités gouvernementales un peu partout dans le monde et en Occident face à la crise. Est-ce qu'on est vraiment aussi mal pris, d'après vous, que le dit, aussi mal gréé en directeur de la santé publique que le dit Frédéric Bérard?
Ben, au sujet de M. Arruda, il faut aussi savoir qu'il n'est pas un dictateur cubain au sein de son organisation. Il y a de très nombreuses directions de santé publique dans les régions. Ils sont sûrement animés de plusieurs opinions, de plusieurs expertises. Le ministère de la Santé, globalement, n'est pas la même chose que les directions de santé publique. Il y a l'INSPQ d'un côté, l'ensemble du gouvernement de l'autre. Et donc, tous ces débats qui ont cours de façon permanente depuis 15 mois et qui, parfois, peuvent donner lieu à des allers-retours, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, ben, il y a une seule personne qui les porte, tout le premier ministre, et c'est le directeur de la santé publique. Donc, lorsqu'on le voit comme un porte-parole et non pas comme un expert qui devrait nous guider comme un grand timonier, ben, on comprend que c'est moins sa compétence qui est en cause que les difficultés inhérentes
de communication
à la pandémie que l'on vit. Ah. Oh non, même pas de communication. Là. Les erreurs de communication, ça, c'est l'excuse facile lorsqu'il y a des réalités difficiles auxquelles on doit se frotter.
Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile pour M. Arruda, la communication. Il y a des reculades assez inélégantes, il y a des affirmations parfois candides.
Je regarde les porte-parole DRAD de l'Ontario et du Canada, et je crois pas qu'on va leur décerner des médailles pour leur capacité de communication non plus. Maintenant, en ce qui a trait au bilan contrasté entre le Québec et l'Ontario, ou entre les pays européens, pour prendre un autre exemple, j'ai l'impression qu'après coup, on va peut-être se rendre compte qu'il y avait un peu de régression statistique là-dedans, là, c'est-à-dire que je pense pas qu'il y a un pays qui a été le champion des 3 vagues. Lorsque au Royaume-Uni, ils ont été frappés très durement, ben, tout le monde disait « Ah, il doit se passer quelque chose avec le Royaume-Uni, c'est mauvais. » Du côté de la République tchèque, ils avaient à peu près 200 cas à tout casser. Alors, ils pouvaient snobber les autres pays européens. En deuxième vague, ben, c'est la République tchèque qui a battu tous les records. Puis en Angleterre, ça s'est calmé. Donc je pense qu'il faut pas suranalyser ces choses-là. Il faut faire ce qu'on a à faire au mieux de nos connaissances. Et en ce moment, au Québec, ben, la rondelle roule de notre côté. Il y a des décisions qui se prennent. La population, malgré les manifestations, est relativement disciplinée. Hein. On a vu des montées de COVID au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les gens ont réagi, ça s'est tassé. Là, on en voit une en Beauce. Je vous prédis que les gens vont faire attention, vont réagir. Ça va se tasser. Et ultimement, à la fin de la journée, tout le monde va être vacciné dans 2 mois, 3 mois. On n'aura pas ajouté une autre dizaine de milliers de morts à notre bilan. Oui, ils travaillent très dur dans les hôpitaux, mais on n'aura pas ajouté une autre dizaine de milliers de morts à notre bilan. Et on aura passé au travers.
Frédéric Bérard, est-ce que le couvre-feu roule pour nous aussi? Est-ce que ce serait ce qui nous distingue en ce moment, par exemple, de l'Ontario, malgré les récriminations, les critiques et les allégations, le fait que la preuve scientifique de l'efficacité du couvre-feu est loin d'être faite pour plusieurs? Est-ce que ça se pourrait que ça marche?
François Legault passait pas autant de temps à lire des ouvrages ultra complexes là, et lisait autre chose, par exemple.
Ben, peut-être de la littérature pour enfants, puisque...
Oui, les des mouches à feu.
Oui.
Peut-être qu'il pourrait aussi lire des trucs scientifiques en pleine pandémie. J'imagine que ça pourrait être utile quand c'est le premier ministre. Je pense notamment à la revue de l'ANSES qui a été capable de défendre en France les couvre-feux, et pas seulement un, là, je pense qu'on a dit au troisième peut-être, les couvre-feux ont eu un impact majeur sur la baisse des taux de contamination.
Où disiez-vous, parce qu'on vous a perdu un instant, donc c'est la revue de Lancet qui dit que les couvre-feux ont un effet, et à quel endroit?
Oui, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler en même temps. En fait, de Lancet, qui est une revue scientifique ultra crédible, a analysé l'impact des couvre-feux en France.
En France, d'accord.
Oui, pour arriver à la conclusion que à chaque couvre-feu, il y a une relation de cause à effet marquée qui fait en sorte que le taux de le niveau de contamination diminue de façon relativement drastique. On l'a même vu ici au Québec, les gens s'en souviennent pas, mais tout juste avant le couvre-feu, on était à plus de 3000 cas par jour. Et c'est à partir de ce moment-là que là, Legault a décidé d'adopter ce couvre-feu-là qui, par magie, a amené ça dans des ratios de 500, 600, 700 avant la nouvelle flambée là, qui a été causée par les derniers relâchements comme tel. Donc, ça pour dire que, malheureusement, ça me fait mal au cœur comme constitutionnaliste de dire ça, mais je pense que le couvre-feu fonctionne bien. En tout cas, c'est du moins ce qui est prouvé scientifiquement. Et c'est peut-être pas ici au Québec, mais je vois pas trop quelle est la différence entre la France et les Québécois, à moins qu'on nous replate encore là, notre petit côté latin.
Ah, ben oui, ce serait peut-être plus une similitude qu'une différence. Terminons, cher collaborateur, avec la... On en parle très peu, on n'en a pas parlé, je pense, à cette émission jusqu'ici. La course à la chefferie, pardon, du Parti conservateur du Québec qui met aux prises Éric Duhaime et un certain Daniel Brisson, que je ne connais pas, je vous l'admets candidement d'emblée. Mais toujours aussi que les deux candidats, et on le comprend, donc ce parti de façon plus large, se sont mis de l'avant ces derniers mois avec une critique féroce des mesures sanitaires qu'ils jugent, ces deux candidats et le parti, beaucoup trop restrictives et sévères. Frédéric Lapointe, est-ce que... Et le parti se targue d'avoir augmenté son membership de 700 quelques personnes jusqu'à 13 ou 14 000, ce qui est davantage que la CAQ la dernière fois qu'on a pu vérifier. Est-ce qu'il y a un avenir là pour un parti comme celui-là, très, très, très momentanément du moins, qui fait peut-être ses choux gras pour l'instant là, à travers une certaine grogne face aux mesures sanitaires?
Oui, il y a de l'avenir pour le parti, ce parti conservateur au Québec. La CAQ s'est déguisée en mouvement populiste, en partie, je le dis presque sans snobisme, là, mais en partie un peu stupide, là, anti-intellectuel, anti-expert, anti-consensus, et a récupéré une partie de cet électorat. Mais force est de constater que la CAQ au gouvernement est un espèce de gouvernement péquiste soft, qui n'a pas ce qu'il faut pour plaire à ses électeurs qui ont parqué leur voix à la CAQ en espérant autre chose. Donc, ces électeurs, avec le véhicule qu'est le Parti conservateur, vont retourner à quelque chose qui représente leur idéologie. Moins de taxes, moins d'intervention du gouvernement, une certaine attitude hautaine vis-à-vis d'autres mouvements politiques. Et je pense qu'ils sont... il va y avoir une cinquième force politique au Québec. Hein. On n'a pas besoin de proportionnel pour avoir de la diversité. Ça, je pense qu'on peut arriver à cette conclusion-là aisément.
Frédéric Bérard, est-ce que ce parti-là, sous la gouverne, par exemple, d'Éric Duhaime, on peut le pressentir comme vainqueur, à moins que je me trompe, peut effectivement gagner en popularité au Québec, vis-à-vis de l'auditoire de la Radio de Québec, par exemple, la fameuse Radio de Québec dont on parle souvent. C'est un peu de ce public-là dont parle Frédéric Lapointe, je crois. Est-ce qu'on peut aller au-delà de ça?
Moi, je pense pas. Je pense que sans proportionnel, ces partis-là vont quand même demeurer dans la marginalité. Il ne faut pas oublier que là, la hausse accrue du membership, qui est effectivement remarquable, est due d'une part à la popularité, façon de parler de Duhaime, mais aussi du fait de la crise sanitaire. N'eût été de celle-ci, est-ce que le message très démagogique d'Éric passerait aussi facilement. Franchement, j'en doute. L'autre truc, par contre, c'est qu'au-delà de ces questions, ils sont dangereux, hein, lorsqu'ils parlent de mesures sanitaires, là, je veux dire, ils ont...
Mais j'allais vous poser la question, est-ce qu'on est dans l'irresponsabilité ou on tient un discours qui est légitime?
Non, en total, Duhem a de la vitre sur les mains là, par rapport à ce qui s'est passé là, il y a tout quoi une semaine, là, le grabuge là, dans le Vieux-Montréal, je veux dire, ça c'est clairement sa gang, il les entretient sciemment. C'est un gars qui est beaucoup plus intelligent qu'on pense. Il est plus stratégique aussi. Il sait comment parler à sa gang. Mais reste que si on enlève ce volet-là, qui est, à mon avis, drôlement problématique en matière de pandémie, on l'a vu là, avec le gym de Québec, et ça a des impacts collectifs majeurs. Mais au-delà de ça, évidemment, moi, je suis pas conservateur pour deux sous, mais je vois plutôt d'un bon œil le fait qu'on soit capable de parler de gauche et de droite comme le fait le Parti conservateur, comme pourrait le faire en fait le Parti conservateur là, une fois que cette crise-là est terminée. Puis parce que je suis assez d'accord avec Fred, quand la CAQ a été élue, ben c'était vraiment le discours populiste classique, un peu bon, on se la jouait un petit peu ticoun, puis ça marchait bien. Rendu au pouvoir, ben là, visiblement, ils dirigent comme des grands, là, on doit se le dire. Et ce qui fait que la place ici n'est pas occupée par un parti populiste. Il en reste une place qui est disponible, qui sera nécessairement comblée par les conservateurs. Mais le reste, pas quand Duhem arrive avec des trucs comme, par exemple, je sais pas moi, le monopole des syndicats, de la SAC, et ainsi de suite. Évidemment que je suis pas d'accord avec ça. Je pense tout à fait l'opposé, mais je pense que c'est sain dans une démocratie d'être capable d'avoir ce jeu dialectique pour en arriver là à des débats qui sont un peu rehaussés. Puis est-ce que Duhem est capable de rehausser le débat? Ça, on verra bien. Mais reste que je suis content, moi, en quelque sorte, qu'on soit capable d'avoir un vrai débat, comme on a un petit peu en Europe ici, hein, parce que qu'on a un petit peu en Europe, parce qu'ici, on sait qu'on se dirige beaucoup, beaucoup au centre, à l'extrême centre, même, on peut dire. Donc, d'avoir un Québec solidaire d'un bord, d'avoir un parti conservateur de l'autre, et deux, trois partis dans le milieu, moi, je pense pas que ce soit en soi là, un problème.
Là-dessus, il faut dire que pour le candidat Daniel Brisson à la chefferie de ce parti, Québec solidaire, la CAQ, le PQ, le Parti libéral, c'est du pareil au même. Hein. Pour lui, ce sont tous des partis de gauche. En un mot, en terminant, parce qu'il nous reste...
Vous savez, Québec solidaire dit la même chose, tous les autres sont à droite. Donc,
oui.
La remarque de Fred Bérard est excellente de ce point de vue-là.
Alors, on a Dupont et Dupont ici.
Il y en a un à gauche, l'autre à droite et les autres au milieu.
Le yin et le yang. En terminant, en 10 secondes, il faut quand même qu'on en parle, le fameux projet d'un référendum à la prochaine élection sur un scrutin proportionnel. Pour que cette chose se concrétise, il faudrait que le projet de loi présenté par la CAQ, comme il l'avait promis, là, soit adopté d'ici juin. Plusieurs disent que ça n'arrivera tout simplement pas. C'est un dossier classé maintenant, cette réforme du mode de scrutin. Frédéric Lapointe, en un oui ou un non, est-ce que ça va arriver?
Non.
Frédéric Bérard?
Même chose.
Alors voilà, sur ces belles paroles, allez vous reconfiner. C'était Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe, nos commentateurs de l'actualité. Merci, messieurs. Dans un instant, chers auditeurs, nous parlons politique canadienne avec Farouk Karim. À tout de suite.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Alors, il est analyste politique, il est à Gatineau, il fut impliqué notamment au Nouveau Parti démocratique du Canada, au Bloc aussi, je crois, à moins que je me trompe. Bonjour, Farouk Karim.
Vos sources sont excellentes. Bonjour, Nick.
Oui, c'est ma mémoire, ma source pour le moment. Mais merci, ça me rassure sur moi-même. Farouk Karim, il y avait la semaine dernière, et vous nous expliquerez si c'est un pur hasard ou non, les congrès respectifs du Parti libéral du Canada et du NPD. Dans tous les cas, peu importe la raison pour laquelle ces deux événements se produisaient en même temps, ça a été l'occasion d'une mise en parallèle particulièrement efficace des situations politiques de ces deux partis. On a vu, me semble-t-il, à quel point l'un pousse l'autre à devoir être encore plus à gauche, c'est-à-dire le premier étant le Parti libéral et le second étant le NPD, pour que le NPD puisse survivre quand Justin Trudeau ratisse à ce point vers la gauche. Et c'est encore plus vrai en temps de pandémie, puisque ça lui permet de faire pleuvoir des milliards sur les Canadiens. Est-ce qu'il reste une place pour le NPD? Est-ce qu'il reste un espace politique pour le NPD? Et je réitère ma première question. Est-ce que c'est un hasard que les deux événements aient eu lieu en même temps?
Sur le fait que le timing soit en même temps, je suis pas sûr, mais il est possible qu'en raison de la COVID, tout ça a provoqué la chose. C'est pas habituel que les congrès se passent en même temps. D'habitude, on s'entend pour avoir des fins de semaine à nous tout seuls.
Mais c'est ça, c'est une espèce de comble de dérangement pour les néo-démocrates. En quelque sorte, déjà, ils ont de la difficulté à exister à gauche des libéraux. En plus, il faut que les congrès se passent en même temps.
Oui, non, vous avez raison, ça enlève un peu de couverture médiatique. Remarquez que une semaine plus tard, c'est pas mal loin, les deux congrès, on va en parler, mais à cause de la COVID et de ce qui se passe, ça a pas fait beaucoup de couverture, malgré que ce qui est intéressant d'en parler, c'est le positionnement de chacun des deux partis, parce que clairement, dans les deux congrès, les deux chefs, M. Trudeau, le premier ministre, et M. Singh, envoyaient clairement leur message préélectoraux de comment ils vont se positionner. Pour M. Trudeau, c'était très clair que son message, lui, veut une course à deux dans le Canada contre les conservateurs et au Québec contre le Bloc. C'est les deux partis qu'il a mentionnés dans dans sa fin de semaine et dans son discours. Il a évidemment pas mentionné le Parti vert ni les néo-démocrates. Dans la tête des stratèges libéraux, c'est les conservateurs dans le reste du pays et le Bloc au Québec. Et si c'est une course à deux, ils ont le plus de chances. Ils veulent pas éparpiller pour faire un lien avec ce que vous dites sur la place du NPD sur l'échiquier. Les libéraux ne veulent pas éparpiller des votes à gauche et donc vont le plus possible éviter de parler du NPD et de créer des courses à deux.
Alors on évite au fond de heurter l'électeur potentiellement néo-démocrate qui pourrait venir vers les libéraux. C'est un peu ça le procédé?
Exactement. C'est-à-dire qu'on prend pour acquis avec ce qui va se passer cette semaine. Il va y avoir un budget, il va y avoir des investissements de ce qu'on dit à la hauteur de près de 100 milliards de dollars. Généralement, ce sont des partis plutôt interventionnistes qui font des investissements de la sorte.
Mais donc, c'est pharaonique là, quand on compare ça à une bonne année habituelle de, je ne sais pas, 25
absolument.
Milliards.
Oui, absolument. Donc, on n'est plus au diable des dépenses. Là, il faut relancer l'économie post-COVID. En même temps, les libéraux veulent beaucoup miser sur une transition énergétique, donc beaucoup d'investissements en environnement et la lutte au changement climatique. Donc, tout ça pour dire les thèmes qui vont plaire à l'électorat progressiste, un électorat du NPD. Et donc, c'est ça la lutte qui s'amorce à gauche. Comment est-ce que le NPD fait en sorte de garder son électorat et qui n'aille pas chez les libéraux, qui, eux, vont continuer à faire la classique, c'est-à-dire que si ce n'est pas nous, c'est les grands méchants de droite qui vont gagner, donc vous devez rester avec nous.
En l'occurrence, ici, Erin O'Toole, qui lui-même, également, essaie de regarder un peu vers la gauche, donc vers le centre dans son cas. Tout le monde s'en va à gauche, Farouk Karim?
C'est-à-dire que M. O'Toole continue, c'est intéressant parce que lui, son congrès était la semaine d'avant et on se souvient de ce qui est sorti de son congrès, c'est que son parti est un peu divisé. Le parti a même voté une motion contre les changements climatiques. M. O'Toole a commencé ce congrès en disant nous devons changer et lui, il continue. Donc cette semaine, il présente son plan d'environnement. Donc il essaie de se recentrer un peu comme vous dites parce qu'il sait que l'électorat, son élection se gagne en Ontario et les réfractaires à voter conservateur dans ce coin de pays-là, c'est beaucoup par rapport à la question environnementale. Donc, il doit se recentrer. C'est pour ça qu'il a présenté un plan environnemental. On pourra en parler, mais dans les blocs de départ, c'est un peu critiqué de part et d'autre et c'est même un peu ridiculisé. Donc, on va voir comment il va s'en sortir avec ce plan-là.
Ça déplaît à tout le monde, à ces militants plus conservateurs, tout autant qu'à ceux qui attendent, qui demandent tel plan de tous les partis et qui trouvent généralement que c'est jamais assez de toute façon.
Ben, c'est un peu la difficulté de M. O'Toole, c'est-à-dire que lui, la crédibilité de son plan environnemental dépend un peu de la montée de la critique à l'intérieur de son parti. C'est-à-dire que si dans son parti, il n'est pas critiqué sur son plan, ben, les gens vont dire à l'extérieur de son parti que ben,
c'est douteux.
Donc, voilà. Donc, il est critiqué, mais il est aussi critiqué de l'extérieur. Donc, en ce moment, M. O'Toole est pris dans un classique en politique, là où tu veux pas être, c'est-à-dire que tu as une position politique à la recherche d'un électorat. Et c'est un peu là qu'il est, et à déplaire à gauche et à droite, il cherche son électorat, puis il a un peu pris là-dedans.
Alors, ça pose des questions. Ce que vous venez de nous dire pose une question à chaque bout du spectre. Est-ce que ce déplacement, cette tentative de déplacement vers le centre de M. O'Toole ouvre un espace pour un Maxime Bernier plus à droite? Et ensuite, dites-moi, pour le NPD, qu'est-ce que ça veut dire? Ou juste, qu'est-ce qui reste comme espoir pour les néo-démocrates? On avait l'habitude de dire que Trudeau faisait mine d'être progressiste avec des questions morales, des positions de principe, des excuses. Mais là, maintenant, on est dans le dur, dans les dollars. On investit des sommes monumentales. Donc, on est même concrètement vers la gauche, économiquement du moins. Alors, est-ce qu'il reste quelque chose pour les néo-démocrates d'autre qu'une radicalisation qui ne peut qu'être contre-productive pour eux?
Oui, ben, pour commencer, à droite, ça ressemble pas mal à la conversation que vous avez eue précédemment, c'est-à-dire avec le Parti conservateur au Québec. Donc, vous avez raison, c'est-à-dire que si le Parti conservateur, si la base du Parti conservateur du Canada, je dis, est insatisfaite, il y a une opportunité, par exemple, au parti de M. Bernier, où il y a même un parti provincial dans les prairies similaire au Bloc, le Maverick Party, donc qui va monter aussi. Il y a une réelle menace de perte vers la droite des conservateurs et de se retrouver un peu dans le scénario des années chrétiennes où la droite était divisée. Donc, c'est dans ce scénario-là qu'ils ne veulent pas revivre, mais ils sont un peu là-dedans par la force des choses sur la question environnementale. Maintenant, pour le NPD, ça a toujours été le dilemme. C'est-à-dire qu'une fois que les libéraux rament à gauche, non seulement en parole, mais comme vous dites, en mettant l'argent sur la table, comment fait-on pour se démarquer? D'autant plus qu'avec un budget qui s'en vient, on peut anticiper que le NPD va appuyer ce budget. On peut déjà anticiper que les conservateurs n'appuieront pas le budget. Le Bloc a déjà un peu signalé que s'il n'y avait pas d'argent en transfert en santé, ce qu'ils ne semblent pas avoir, ils vont voter contre. Donc, en d'autres mots, dans un point de vue narratif, le NPD appuiera un budget libéral et 6 mois plus tard sera en élection contre ce même gouvernement libéral. Donc, ça rend la chose très difficile. Mais par contre, ce qui joue en faveur du NPD, disons pour M. Singh, dans la dernière année de la pandémie, c'est-à-dire que ces chiffres ne sont pas n'ont pas baissé. Ils ont soit resté constants, soit ces chiffres personnels se sont améliorés de satisfaction personnelle. Donc, il peut miser un peu là-dessus. C'est quand même assez un succès dans cette année, pendant la pandémie. Les spotlights sont sur les gouvernements. La plupart des gouvernements en place ont augmenté leur taux de satisfaction, que son taux de popularité dans les 20% dans l'électorat est resté le même, est quand même positif, mais ça va être difficile dans les prochains mois de justifier l'appui des libéraux à un budget et de les critiquer dans une élection, et c'est ça qui doit enfiler, mais c'est très difficile.
Et c'est pas nécessairement en se tournant du côté du Québec que le NPD peut espérer améliorer son sort. Sentez-vous, vous aussi, de Gatineau, cette espèce de déconnexion ou de difficulté là, de communication entre M. Singh et l'électorat québécois?
Oui, non, ben je crois que par la force des choses au Québec, le NPD depuis l'élection se maintient à peu près à 10%, donc pas assez pour faire des gains. Ça va être difficile de garder celui qui est déjà en place, M. Boulris. Je crois que les énergies vont être plutôt à garder ce qu'on a en place plutôt qu'à grossir, qu'à croître. La croissance du NPD à court terme, elle se situe plus dans la banlieue de Toronto et dans les banlieues de Vancouver qu'au Québec. Donc, même en termes de ressources, c'est là qu'on va le voir. Ça ne veut pas dire que le NPD ne parlera pas du Québec, mais vous allez voir, juste par mathématiques électorales, plus de ressources mises dans le reste du pays.
En terminant, Farouk Karim, parlons d'une situation tout à fait inusitée, mais qui découle d'un problème grave et même tragique. C'est l'Ontario qui appelle à l'aide. Une situation pandémique qui se corse beaucoup, très difficile à l'heure actuelle, hors contrôle, disent certains, là, face aux variants notamment. Beaucoup, beaucoup de cas, 4000 quelques, et avec des projections qui montent jusqu'à 18 000 cas par jour. Et l'Ontario ne s'est pas beaucoup trompé dans ses projections jusqu'ici. Devant cet appel, les autres provinces canadiennes sont un peu mitigées. Et on se demande s'il ne faudrait pas, et c'est ce que demande entre les lignes l'Ontario, procéder à une répartition différente des doses de vaccins qu'au simple prorata de la population. Justin Trudeau n'a pas tout à fait fermé la porte à une telle chose, mais est-ce qu'on peut imaginer, M. Trudeau, changer cet équilibre, se fonder sur quoi au juste pour envoyer proportionnellement plus de vaccins, par exemple, en Ontario?
Vous vous rappelez, je pense que vous vous rappelez au début, c'était une demande de M. Legault à l'origine, au début, le Québec étant le plus touché, d'avoir, peut-être pas en termes de vaccins, mais en termes de ressources, d'avoir plus de ressources du fédéral et non en proportion de la population.
En effet.
Finalement, tout ça a été décidé en proportion parce que d'un point de vue fédéral, c'est beaucoup plus simple et à gérer. Par contre, on sait que d'un point de vue épidémiologique et de santé publique, il faut mettre les ressources là où ça explose, parce que ça sert à rien de mettre des ressources ailleurs. C'est là où il y a des éclosions qu'il faut mettre les ressources. Donc,
est-ce qu'on pourrait imaginer une formule qui se fonderait sur des facteurs de densité de population, par exemple?
Ben, moi, je crois que, sans être un expert, mais il me semble que tout ce qu'on fait depuis maintenant, la densité est un élément important. C'est pour ça qu'on réduit les contacts, qu'on essaie de le couvre-feu, etc. Il me semble que d'un point de vue de santé publique, ça se justifierait, que la façon que M. Trudeau changerait d'avis là-dessus, ce serait un avis basé sur la science et sur ses docteurs. Mais il me semble que si le feu est pris quelque part, c'est là que les ressources doivent être mises en premier.
Mais c'est pas dit que ça puisse se faire facilement sans faire grincer des dents ailleurs au Canada,
oui,
évidemment.
Parce que c'est quoi l'enjeu? L'enjeu ailleurs où il y a le moins le feu, c'est de repartir l'économie. Donc les gens c'est ça l'équilibre de la fédération. Mmh. Donc est-ce qu'on aide les gens qui sont au feu, mais d'autres veulent ressortir du feu que eux-mêmes ont éteint. Et donc c'est cet équilibre-là qui doit juger à l'aube d'une élection. Et donc il y a toujours l'enjeu politique.
Farouk Karim à Gatineau, ancien attaché de presse du NPD, analyste politique. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Merci d'avoir participé à l'émission.
Merci à vous, au revoir.
À une prochaine. Dans un instant, Nicolas Vidal, en direct de Paris, nous parle de ce qui se passe là-bas et de la réforme ou de l'abolition de l'École nationale d'administration publique. À tout de suite.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Alors, c'est le fondateur et le patron de Pouch Media. Il est en direct de Paris, en ligne avec nous. Nicolas Vidal, bonjour.
Bonjour, Nick, bonjour.
Et vous êtes auteur d'un livre dont on n'a pas parlé au Québec, mais on se promet bien d'en reparler avec vous bientôt. Mais en 30 secondes, Nicolas Vidal, ça s'appelle Média, je crois, le grand errement. Est-ce que c'est ça? Et de quoi ça parle exactement?
Bah bien sûr, oui, c'est un livre qui est paru au 1er avril en France, qui sortira d'ailleurs, je vous le dis de suite, Nick, il sortira le 14 juin au Québec. Et c'est un livre, en fait, c'est un essai, certains l'appellent corrosif, qui met en exergue la sédition de certains grands médias et surtout comment les grands médias français mainstream ont étouffé ou du moins volé la démocratie depuis 30 ans. Donc j'essaye d'expliquer sur 140 pages les différentes étapes de ce vol, de cet étouffement de la démocratie et le fait qu'il n'y ait plus beaucoup de pluralisme des voix et que toutes les voix dissidentes et discordantes soient reléguées, soient excommuniées du débat public, ce qui est extrêmement grave pour la démocratie et qui malheureusement risque de mal finir. Donc ce livre-là, Nick, est un « Je tire la sonnette d'alarme ». Voilà.
Rappelez-nous le titre de l'ouvrage, j'ai peur de mal l'avoir cité.
Alors, c'est Média, le grand errement.
Le grand errement, voilà. On en reparlera, Nicolas Vidal.
Avec plaisir.
Parlons maintenant de la prestigieuse ENA, cette institution qui a formé 4 des 6 derniers chefs de l'État français. Vaste majorité ou la quasi-entièreté des responsables politiques chez vous sont passés par l'ENA. On les appelle les énarques, pour faire un peu comme monarque. Donc, des grands officiers de l'État qui sortent de cette école et qui, pense-t-on, sont un peu tous formatés de la même façon. C'est une espèce de caste. On critique, bien sûr, cet phénomène de caste. Et c'est lors de la révolution des Gilets jaunes que le président Macron avait évoqué la suppression de cette grande école dont il est lui-même issu, faut-il le dire. À quoi ça rime tout ça, Nicolas Vidal? Est-ce que c'est une réforme cosmétique? Est-ce que M. Macron veut vraiment, démocratiser, diversifier la classe politique française en procédant à cette réforme?
Alors, il y a une chose qui est sûre, Emmanuel Macron, il fait tout sauf démocratiser la France. Ça, c'est évident. En fait, c'est une mesure cosmétique parce qu'Emmanuel Macron, il n'a plus rien à faire comme réforme. Aujourd'hui, vous le savez, Nick, il y a la crise sanitaire qui l'empêche absolument de faire toutes les réformes qu'il voulait. Les deux réformes phares, cadre du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'était la réforme des retraites, on en a déjà parlé à l'antenne, et il y avait aussi la réforme de l'assurance chômage, celle-ci, elle va passer pour les Français, mais finalement, Emmanuel Macron, il n'est pas allé au bout de sa feuille de route, parce que pour moi, Emmanuel Macron, il a une feuille de route, donc il est allé taper sur les énarques, sur l'énarchie, pour essayer de dire qu'on démocratisait, elle allait ouvrir l'ENA à toute une pan de la population qui en est exclue aujourd'hui, mais c'est une très mauvaise mesure, la réalité, c'est que...
Mais quand on parle de suppression, ouais. C'est quoi? C'est une réforme en profondeur à tel point qu'on change le nom de l'institution? On la fait disparaître? Qu'est-ce qui arrive exactement?
Oui, effectivement, vous avez raison. Il va remplacer ça par un obscur institut du service public. Parce qu'en fait, mais la réalité, c'est que quand on a l'ENA qui a été fondée en 45 suite au sortir de la Seconde Guerre mondiale par le général de Gaulle du gouvernement provisoire, on ne remplace pas l'ENA, on supprime. L'ENA était un fleuron. D'ailleurs, il y a une très belle interview d'un Québécois dans le Figaro Vogue cette semaine qui est sorti de l'ENA et qui demande à Emmanuel Macron de ne pas le supprimer parce que l'ENA aussi a permis de faire rayonner la France sur le plan international. Et puis ça formait, vous l'avez dit, ça formait les hauts cadres d'administration. L'ENA. C'était extrêmement important de former une élite pour structurer et diriger le pays. Mais Emmanuel Macron, en fait, il a promis ça pendant les Gilets jaunes, mais je le rappelle, hein, les Gilets jaunes n'ont jamais, jamais, jamais demandé de la suppression de l'ENA. Il n'y a jamais eu de pancarte dans les manifestations, et vous savez, Nick, que j'en ai fait beaucoup. Les Gilets jaunes n'ont jamais écrit sur des pancartes qu'ils voulaient la suppression de l'ENA. Donc, effectivement, Emmanuel Macron, comme il ne peut plus faire grand-chose, il a l'impression de faire un peu de cosmétique. Il ne lui reste plus que ça. Et en termes de démocratie, de démocratisation, et pour les hauts corps d'État, les hauts fonctionnaires d'État, très sincèrement, c'est pas la mesure à prendre aujourd'hui. Il y a des urgences beaucoup plus importantes à faire en ce moment même dans la situation dans laquelle est la France et va se trouver la France dans les prochains jours et les prochaines semaines.
Mais alors, qui a raison, Nicolas Vidal? Est-ce que l'ENA est un fleuron ou est-ce que c'est au contraire une machine à fabriquer des automates qui pensent tous pareil, plus ou moins néolibéraux et le reste? Où est la vérité dans tout ça?
Oui. Il bien entendu qu'effectivement l'ENA est un moule intellectuel de formation des élites, vous l'avez dit, Nick, effectivement, néolibéraux, toute une série de thèmes là-dessus dans lesquels ces hauts fonctionnaires sortent, et puis aussi, il faut le savoir, quand vous sortez de l'ENA aussi, pour certains, vous allez dans des grands cabinets privés, vous allez dans des grands groupes industriels, donc ça c'est extrêmement important de le savoir. La réalité de l'ENA, c'est que c'était, je l'ai dit en préambule, c'est que c'était pour former des fonctionnaires d'État, mais qui étaient épris de nation. Je vais dire un gros mot, Nick, de patriotisme. patriotisme, qui étaient là pour servir leur nation suite à la formation pointue que leur avait offert la France. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une élite qui est totalement déconnectée, qui est torse sol, bien entendu.
Alors, ce que vous dites, au fond, c'est qu'on a perdu un peu l'esprit fondateur de l'ENA et il suffirait d'y revenir plutôt que de faire disparaître une institution juste pour faire du symbole.
Bien sûr, mais ça pose la question fondamentale néanmoins en France sur l'intérêt, sur le patriotisme de nos élites actuelles depuis 30 ans. C'est ça le problème, parce qu'une élite en soi n'est pas mauvaise, il faut une élite dans chaque pays. Il en faut une, bien entendu. Encore faut-il y mettre un peu de méritocratie pour pouvoir former ces élites. Mais la réalité, c'est que les élites en France depuis 30 ans, élites politiques, élites médiatiques, dont je parle dans mon livre, c'est qu'à un moment donné, elles ont fait sédition avec la France. Elles ne servent plus la France, elles servent des intérêts propres, financiers, privés, qui envoient la France dans le mur. Donc Emmanuel Macron, il veut supprimer l'ENA et le remplacer, je vous l'ai dit, par cet institut du service public, c'est une chose, mais la réalité, c'est que la sédition des élites, elle n'est pas qu'à l'ENA, elle est partout en France, dans les grandes écoles, dans les grands corps, elle est partout, même les gens, les 1%, vous savez, c'est les Français très très aisés, ils font de la sédition, ils envoient leurs enfants dans des écoles très privées, soit en France, soit à l'étranger. L'ENA n'est pas le nœud gordien de la trahison des élites. L'ENA est une partie du problème, mais la sédition des élites en France va bien au-delà de l'ENA, et Emmanuel Macron, une nouvelle fois, je reprends votre mot, fait de la cosmétique en pensant faire une réforme, et en fait, les Français s'en foutent de sa réforme de l'ENA. Voilà.
On comprend bien votre analyse, Nicolas Vidal. En deux minutes, question COVID-19. On a eu l'impression ces derniers jours, en regardant les chiffres, que la vaccination commence à prendre son envol chez vous après toutes sortes de difficultés. Est-ce que ce n'est qu'une impression? Comment ça va de ce côté-là? Ah.
Ouais, alors là, Emmanuel Macron est complètement empêtré, le gouvernement est complètement empêtré dans la stratégie de vaccination. Vous le savez, Nick, ils ont tout délégué à l'Union européenne. La France a délégué à l'Union européenne sa santé, alors que c'est pas une prérogative de l'Union européenne. Emmanuel Macron, ça va très mal parce qu'effectivement, on entend ça depuis 6 mois. Ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Il y a des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de doses, mais par idéologie fantasque, notre cher président de la République Emmanuel Macron continue à attendre la béquée bruxelloise pour récupérer des vaccins, alors que la plupart des membres de l'Union européenne, cher Nick, vont se livrer, vont se servir en Chine, vont se servir en Russie. Je parle bien entendu des vaccins. Donc Emmanuel Macron, il se retrouve dans un truc impossible. Et puis, il faut le dire, et aujourd'hui, il y a un seuil d'acceptabilité des mesures. Le seuil d'acceptabilité, je reprends le terme à foison parce que c'est le terme de notre cher exécutif des cabinets ministériels. Les gens n'en peuvent plus ici des mesures sanitaires.
Oui, oui, au Québec, on parle d'acceptabilité sociale. Donc, les mesures ne passent plus chez vous. Mais vous êtes quand même sous des mesures assez sévères. Couvre-feu, port du masque.
Nous, on a la doublette, hein. On a la triplette, même. On a le port du masque, on a le couvre-feu, Nick, on avait le couvre-feu, et on a le confinement aujourd'hui. On a le confinement, on retourne les attestations, on peut pas se déplacer comme on veut, enfin, toute une série de choses, les déplacements inter-régions sont pas possibles. Et Emmanuel Macron, du haut de sa grandeur absolue, nous a laissé miroiter que le 15 mai, on pourrait commencer peut-être à réouvrir, et vous le savez, Nick, ici en France, les terrasses, les cafés, les bars,
c'est ça. Les petits Nicolas Vidal, nous n'avons plus de temps, mais on comprend. C'est parce que vous êtes trop dissiper les Français. Vous avez mérité. Ça vous apprendra. Nicolas Vidal de Putsch Media en direct de Paris. C'est toujours un plaisir de vous entendre. À une prochaine. Protégez-vous bien.
Merci, Nick. Bonne soirée à vous.
À bientôt, chers auditeurs. Nick Payne qui vous dit merci infiniment d'avoir été à l'écoute cette semaine et à la semaine prochaine.